franceinter.fr. Le 7-9 sur France Inter.
Votre invité, Léa Salamé et Nathalie Kosciusko-Morizet.
Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet.
Bonjour Léa Salamé.
De la démocratie en Amérique, Donald Trump sera le candidat des Républicains pour la Maison-Blanche, on le sait depuis quelques heures maintenant. C'est pas vraiment votre ligne centriste qu'elle vend en poupe en ce moment à droite dans le monde?
Je pense que j'ai une ligne centriste, les mots ils demandent tous d'être qualifiés en politique, mais c'est sûr que c'est pas ma ligne, et ça fait pas très envie quoi. Ou alors si je voulais faire une boutade, je vous dirais que ça fait envie d'avoir le droit de vote aux États-Unis pour voter contre. Non, c'est vrai que Trump ça
vous fait peur? Parce que là c'est plus une blague en fait, c'est sérieux, c'est le candidat des Républicains.
Écoutez, un peu oui, parce que c'est-à-dire que il a parfois des tels propos, on se demande si c'est du lard ou du cochon, et parfois on a l'impression que ça tombe du mauvais côté.
Vous venez d'entendre Dominique Seux, Carlos Ghosn qui gagne 15 millions d'euros par an, qui va gagner 15 millions d'euros par an, 7 millions pour Renault et le reste pour Nissan. Alexandre Bompard, patron de la Fnac, 11 millions. Encore plus fort, le patron de Sanofi pourrait gagner 16 millions si les actionnaires en décident ainsi cet après-midi. Tout est normal.
Non, Dominique Seux a soulevé, le bon sujet, c'est que les actionnaires là sont pas d'accord avec le conseil d'administration, et ça c'est pas normal. Normalement les uns sont supposés refléter les autres. Moi je suis pas pour une loi qui s'impose à tous et qui fasse quasiment de la grille de salaire, parce qu'en fait c'est quand on écoute certains discours, c'est ça qu'ils proposent. On voudrait que les salaires soient fixés à l'Assemblée nationale. Non, enfin c'est il y en a qui ont essayé par le passé et ça a pas marché, mais qu'il y a un tel décalage entre ce que pensent les actionnaires, ce que pense le conseil d'administration, c'est sûr que c'est pas normal.
Donc Emmanuel Macron qui promet de légiférer, vous pensez que ce serait une erreur?
Je pense que la loi n'est pas le bon chemin, mais ça veut pas dire qu'il faut en rester là et qu'il faille se satisfaire de la situation. On peut pas avoir un tel désaccord comme ça entre les actionnaires et le conseil d'administration.
Oui, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, vous dites que la loi n'est pas la bonne solution, sauf que...
Ça veut dire qu'il y a un travail à faire du côté... Non, ça veut dire qu'il y a une solution à rechercher du côté de la gouvernance. C'est bien au niveau de la gouvernance qu'il faut trouver des solutions, mais aujourd'hui, c'est pas satisfaisant. Et d'ailleurs, on le voit bien, on a un truc bicéphale dans lequel les deux têtes sont pas d'accord. Comment voulez-vous que ça marche? Dans aucune organisation humaine, ça marche, ces choses-là.
Vous avez entendu l'édito de Patrick Cohen, l'application de la loi Macron, c'est pas encore ça pour les Galeries Lafayette. Pas d'accord pour une ouverture le dimanche. Qu'en pense l'élu parisienne que vous êtes?
Et ça, je pense que c'est un exemple du triste décalage entre le discours et les actes sur ce sujet et sur d'autres. Moi, je suis pour l'ouverture des commerces dimanche à Paris. Je trouve que Paris, ça devrait être une zone internationale dans son ensemble, en fait. Il devrait y avoir une liberté d'ouverture des commerces dimanche partout à Paris, parce que c'est une ville touristique, parce que aussi, c'est la tendance de toutes les grandes métropoles mondiales de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, quand on vient en ville, dans ces villes-là, on attend une forme de tension, un rythme de vie.
Et les syndicats ne sont pas d'accord pour l'instant pour les Galeries Lafayette.
Oui, mais donc on a fait une loi un petit peu hypocrite, qui prétendait résoudre le problème et qui en fait ne résout rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'elle laisse l'ouverture, soi-disant elle libère l'ouverture le dimanche, sauf qu'elle le laisse à la main des syndicats. Et en France, ce syndicalisme est fait de telle sorte que vous avez des grandes organisations, des grandes centrales nationales qui sont pas forcément le reflet de ce que pensent les délégués du personnel. Donc vous avez plein de boîtes, plein de grands magasins dans lesquels les délégués du personnel sont d'un avis et les organisations syndicales d'un autre. Et on en voit l'illustration. Donc en gros, vous avez des gens qui veulent travailler, des organisations syndicales nationales qui leur disent non.
Nuit debout, les policiers disent leur ras-le-bol ce matin. Près de 250 policiers blessés depuis le début du mouvement. Certains dénoncent la volonté de casser du flic. Est-ce qu'il faut interdire ces manifestations comme le demande le porte-parole de votre parti, Guillaume Larrivé?
Je pense qu'il faut bien se rendre compte qu'une manifestation, l'organisation, le respect de tous et des engagements qui ont été pris en matière de sécurité dans une manifestation, c'est d'un côté la responsabilité des organisateurs et de l'autre côté aussi la responsabilité de l'État. Je suis pas sûr que les organisateurs aient été au top de cette responsabilité-là depuis le début. C'est-à-dire qu'ils ont entretenu une certaine ambiguïté dans leur discours vis-à-vis des violences, dans le « c'est pas nous ». Ils peuvent pas juste s'en laver les mains.
Mais vous avez changé votre discours un petit peu, parce que au début vous disiez il faut aller place de la République, et vous disiez il y a un mépris vis-à-vis de Nuit Debout, notamment dans mon parti à droite.
Mais je le dis, je pense que derrière Nuit Debout, il y a bien autre chose que l'écume des choses qu'on en voit en ce moment et les violences qui se sont greffées dessus. Je pense qu'il y a un mouvement de fond qui traverse la société française, qui s'exprime là par Nuit Debout, mais qui s'exprime ailleurs par l'abstention, ailleurs par le discours sur la recomposition politique, qui est un mouvement d'insatisfaction vis-à-vis des formes actuelles de la vie politique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire contre les violences. Ça ne veut pas dire qu'on peut laisser prospérer les violences. D'une certaine manière, les violences, elles abîment ce mouvement-là, en fait. Et regardez, on ne parle plus que de ça. Elle le dénature. Et je trouve que il y a des responsabilités du côté des organisateurs qui manifestement les ont pas toutes saisies.
Ouais. Ils ont un cerveau à Nuit Debout.
Et je suis pas sûre, bien sûr qu'ils ont un cerveau.
Je parle de la phrase de Nicolas Sarkozy.
Et je suis pas sûre que les atermoiements du pouvoir là-dessus aient non plus beaucoup aidé. Parce que le discours des deux côtés, du côté des organisateurs comme du côté du pouvoir, a pas été clair face à des casseurs qui ont été manifestés. Juste une remarque.
Oui.
Je pense qu'il y a il y a quelques centaines de casseurs en Île-de-France. Comment ça se fait qu'on sache les repérer avant les stades? Comment ça se fait et qu'on ne sache pas là, alors que c'est récurrent, c'est maintenant tous les soirs? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à venir au bout? Est-ce qu'on fait vraiment tout ce qu'il faut?
Ça veut dire quoi? Vous accusez le gouvernement de laisser un peu faire les choses?
Ça veut dire que je vous dis, je ne suis pas sûre que les organisateurs aient saisi l'importance de leur responsabilité en matière de sécurité depuis le début, mais je ne suis pas sûre que le gouvernement fasse tout ce qu'il faut, non?
Ouais. Ils n'ont pas de cerveau à
Mais si, je vous l'ai dit et je vous le redis.
Nicolas Sarkozy, toujours dans le texte, après l'environnement, ça commence à bien faire, les antinucléaires, ça commence à bien faire aussi. Il n'y a aucune alternative crédible au nucléaire, a-t-il dit ce week-end dans un plaidoyer pro-nucléaire au JDD.
Moi, je suis opposée à ce que le choix pour une technologie, qu'elle soit de production d'énergie ou d'autres choses, devienne un choix quasiment religieux. Et ça vaut pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire que je trouve qu'il est absolument, il est aussi absurde d'être opposé totalement, comme religieusement au nucléaire, que d'y être favorable pour les mêmes motifs. Il n'y a pas de matière à s'éprendre du technologie. Une technologie, elle est ce qu'on en fait. Il y a bien des choses à dire sur la fermeture de Fessenheim et la façon dont la gauche a voulu mélanger la fermeture de Fessenheim ou la durée de vie de Fessenheim, qui est un enjeu technique, avec des enjeux politiques, faisant faire les travaux, puis après promettant une fermeture qui était évidemment absurde si on venait de faire les travaux pour la prolongation de la durée de vie. Ça, oui, il y a des choses à dire, mais ça ne doit pas devenir un discours quasiment de l'ordre de la foi.
Nathalie Kosciusko-Morizet, des dernières questions. Les parrainages, on en est où?
Mais je pensais, Léa Salamé, qu'on était venu pour parler réforme constitutionnelle. Et vous me dites que la dernière question
mais il y a beaucoup de questions d'actualité ce matin. Je voulais savoir où vous en étiez de vos parrainages.
Moi, je vais vous parler du sujet qui m'intéresse et pour lequel j'étais venue ce matin.
Vous en avez parlé longuement dans Le Parisien. Vous voulez supprimer le poste de Premier ministre.
Mais pas seulement. Tout ce qu'on vient de dire là, une partie de ce qu'on vient de dire là, elle reflète l'insatisfaction vis-à-vis desquelles les Français sont dans les formes de la vie politique. Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on reste comme ça à avoir finalement une espèce de déprise vis-à-vis de la démocratie, de l'abstention, des mouvements comme Nuit Debout, des discours sur la recomposition politique qui n'aboutissent sur rien? Ou est-ce qu'on change? Moi, je propose qu'on change. Et à mon avis, ça passe par une réforme institutionnelle pour laquelle j'ai fait un certain nombre de propositions.
Supprimer le Premier ministre notamment et le Conseil économique et social.
Créer une chambre des citoyens pour qu'on puisse être entendu tout au long du mandat.
Merci à vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci Léa Salamé, il est 8h-3 sur Inter.